مرچ تازه را میده میکنیم، اضافه
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. On le dit, on la savoure ici, cette idée que la cuisine est un langage universel. Elle se passe de vocabulaire, ou plutôt, elle a le sien propre, de saveurs, de gestes, de goûts et surtout, surtout de partage. Il y a parfois, dans la vie, des moments où ce langage est plus précieux encore. La cuisine fait s'effacer les préjugés, les handicaps, les fragilités. La cuisine apporte ce supplément de je ne sais quoi qui donne goût à la vie. Oui, vous savez. Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour Clémence.
Vous êtes cuisinière à Lyon, auteure également. La cuisine marque le tempo de votre vie, je crois qu'on peut dire ça.
Ah oui, tout à fait.
Et à table, vous nous avez apporté un livre aujourd'hui, un livre de recettes, on va dire, très rapidement, ou plutôt un livre d'histoire, ou plutôt un livre de recettes, ou des deux, absolument, de recettes d'histoire, qui s'appelle « La cuisine en partage ». Il paraît à l'occasion des 40 ans de l'ONG Handicap International. 40 recettes de 27 pays du monde, une cuisine jamais goûtée en réalité. Qu'est-ce que c'est donc que cette cuisine en partage ?
C'est avant tout une histoire incroyable. Je ne pensais pas du tout réaliser un livre sur les cuisines du monde parce que j'estimais que je n'avais pas la légitimité. Je ne connaissais pas forcément, par exemple, les cuisines d'Amérique du Sud ou d'Afrique noire. Et à la suite d'une rencontre avec un ambassadeur de Handicap International, qui est un ami, Jacques Delattre, on a commencé à réfléchir à une idée d'un livre qui pourrait célébrer Handicap International. Et c'est ainsi que l'idée d'un livre qui serait au départ le livre des bénéficiaires, c'est-à-dire que tous les gens qu'on aurait identifiés pourraient nous envoyer une recette, restait à définir la forme. Ce livre-là a commencé à faire jaillir tout un tas d'histoires dans ma tête.
Dans vos discussions, justement, la cuisine s'est un peu imposée comme un vecteur parce que, bon, vous êtes amie avec Jacques Delattre, il se dit, elle est cuisinière, ça peut être une idée. Où ça s'est imposé ?
Alors, ce qui était très important, c'était de parler beaucoup plus que de cuisine. En fait, moi, j'ai eu très envie, très vite, en découvrant les actions d'Handicap International, de pouvoir créer un lien. Alors, ce n'était pas possible pour plein de raisons. Le confinement, j'ai eu aussi un petit souci de santé, je me suis cassé la cheville, donc je ne pouvais pas vraiment me déplacer. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut que cette histoire soit vraiment une histoire de lien qui se tisse. Et comme vous l'avez évoqué dans votre introduction, cette cuisine qui fait du bien, cette cuisine qui atténue les chagrins, cette cuisine qui va faire en sorte de fédérer les gens. Et c'est ce qui est né au tout début donc, de l'histoire de ce livre.
Il a fallu donc récolter glaner des recettes.
Tout à fait.
Plutôt, ce sont des recettes, on a envie de dire, qui ont été données par les bénéficiaires. Donc ces bénéficiaires, on peut dire que ce sont des personnes qui ont un handicap ou alors qui vivent avec une personne qui a elle-même un handicap, donc
tout
une mère
fait.
Qui s'occupe d'un enfant handicapé par
tout
exemple. Ce peut être aussi toute la communauté des aidants, ça peut être aussi même les personnels de Handicap International qui partagent aussi leurs recettes.
Complètement. L'idée c'était que pour pouvoir tisser des liens et comprendre un peu les histoires de chacun et chacune, j'ai établi un questionnaire à destination des équipes de Handicap International sur place dans les différents endroits du monde où ils interviennent. Et à partir de ce questionnaire, je voulais savoir, alors bien plus que l'équation des ingrédients
combien
et puis voilà, ça m'intéressait, mais c'était vraiment pas le sujet. Ce qui m'intéressait plus, c'était de savoir à quel moment les personnes cuisinaient. Pour quelles personnes elles cuisinaient ? Est-ce que c'était simplement pour leurs enfants et leurs familles proches ? Ou alors est-ce qu'il y avait des amis qui se joignaient ou une famille un peu plus large qui rejoignait tout le monde au moment des repas ? Est-ce que les ingrédients venaient d'une cueillette ou est-ce qu'ils étaient achetés sur le marché ? Comment on trouvait ces ingrédients ? Et puis ensuite, quels étaient les ustensiles dont disposaient les personnes pour cuisiner ? Tout ça, c'était très très important pour que je puisse un petit peu construire le décor. Parce que ben, moi, j'ai beaucoup d'imaginaire, j'aime vraiment rêver, j'essaye de vivre aux côtés des gens quand je fais des choses, mais il me fallait quand même 2-3 petits éléments pour poser le décor. Et à partir de là, j'ai eu donc des vidéos qui ont été tournées.
Parce qu'on n'a pas encore dit depuis le début de cette émission qu'en fait, votre outil de découverte, c'était des vidéos.
Alors, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que ces vidéos n'étaient pas sous-titrées, donc j'ai pu les regarder plusieurs fois sans être perturbé par justement une traduction immédiate qui aurait pu, encore une fois, un peu brimer mon imagination. J'ai fait un peu d'effort, par exemple, pour essayer de deviner quel était l'ingrédient, de quoi parlait la personne. Et au bout de plusieurs visionnages, là ensuite, j'ai regardé la traduction.
Et ce langage universel était enfin compris.
Olá, mais uma vez, cá estou já com os ingredientes já preparados. Vou já apresentar a folha de abóbora que nós mostramos antes. Agora ela está aqui, cortada, lavada e pronta para cozer. Vou adicionar na panela, que já está no fogo aquecer. E põe no taque. E a modar põe. E o sonazade. E cacê top põe. E digri bis patis met ma pagzade.
Alors là, on vient d'entendre deux jeunes femmes qui racontent leur recette. Il y a notamment, je crois, une de vos découvertes, Kabita, qui est au Népal. Est-ce que c'est d'ailleurs la vidéo de Kabita qui était la première que vous avez découverte?
La première, ça n'a pas été une vidéo facile. J'ai trouvé que c'était une vidéo un peu rude. Je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, oulala, si c'est aussi difficile à chaque fois, je ne sais pas comment je vais faire. En fait, j'avais pas du tout de préjugés, je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir comme recette.
Oui, ça devait être fou, mais même ce sentiment-là d'allumer...
Et donc, on lance une vidéo et on ne sait pas du tout ce qu'on va voir.
C'est à quoi ça
hyper étrange, c'est très surprenant. Et donc, je lance la vidéo et la première était sur les camps sahraouis, une recette qui s'appelait Bulkman. Alors, pour résumer, on peut dire que c'était une sorte de polenta d'orge qui était servi avec, alors au départ je n'ai pas compris ce que c'était, je voyais une sorte de substance blanche. Je me suis dit, bon, c'est quand même étrange, qu'est-ce que ça peut être? J'ai regardé plusieurs fois, alors les gestes étaient extrêmement rapides, c'est-à-dire que de l'eau, cette farine, on remue, ça cuit, ça devient un petit peu épais, on met ça dans un grand plat. Alors cette substance, j'avais deviné que c'était quelque chose de gras, mais je ne savais pas exactement ce que c'était, et on dégustait simplement cette polenta. C'était un petit peu rude, je me suis dit, ah oui, là quand même, ça va être difficile de reproduire. Et en même temps, fou, tellement fou, parce qu'il y avait une force dans ces images, c'était quelque chose de puissant. Et puis quand j'ai eu la traduction, j'ai compris que ce gras était du gras de mouton, parce que les hivers, enfin les nuits sont très froides, et donc il faut vraiment quelque chose qui tienne au corps. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, alors il faudra que je réfléchisse à... soit simplifier des recettes, soit trouver une alternative qui soit moins difficile à accepter dans nos repas en Europe. Et donc du coup, en fait, cette polenta était absolument délicieuse avec de l'orge, donc je l'ai gardée. Mais à la place du gras d'agneau, j'ai mis une ricotta plus légère, plus facile, plus rassembleuse en fait autour d'une table. Et du coup, ça a été le point de départ pour simplifier toutes les autres recettes et de dire, il faut absolument que je trouve à chaque fois le point important qui fait que la recette ne perd pas du tout de sa force et de sa substance, mais je le simplifie pour permettre au plus grand nombre de découvrir tel ou tel esprit de la recette qui nous a été offerte.
Ce qui est fou quand même, c'est que vous êtes à Lyon en train de visionner les gestes d'une femme qui est en train de préparer un plat fait à base d'orge. Dans un camp du Sahara.
Complètement. Quand on y pense, il y a quelque chose de totalement irréel. Et tout à l'heure, je réécoutais Jennifa, je réécoutais Kabita.
Jennifa, c'est la personne du Mozambique qu'on a entendue.
Je ne parle pas toutes ces langues. Le portugais, je ne parle pas le népalais. Tout à l'heure, vous m'avez parlé, vous voyez, on ne peut pas le voir, mais on est à la radio. J'ai la chair de poule parce que j'ai repéré certains mots de Kabita, j'ai repéré certains mots de Jennifa et je me rappelle, je revois les images et les gestes de cuisine. Et c'est ça que j'aimerais que les gens redécouvrent en feuilletant ce livre, La cuisine en partage, parce que vraiment, avant tout, on a partagé des émotions. Et ensuite, bien évidemment, sont arrivées les recettes.
Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que toutes ces vidéos ont été réalisées et ont été faites comme un message qui vous était adressé.
Oui.
Parce que les personnes qui ont partagé ces recettes savaient que quelqu'un en France, une cuisinière, allait les mettre à sa sauce, quelque part.
Alors, pour moi, le plus beau cadeau, il faut que j'en parle à Xavier Ducret. J'aimerais beaucoup quand les femmes vont découvrir, parce que l'idée, c'est de leur envoyer évidemment le livre pour leur faire découvrir. Et j'aimerais tellement, même avec un petit téléphone ou quelque chose, que la personne qui va leur offrir le livre et leur montrer capte l'émotion qu'elles vont avoir en regardant le livre. Peut-être qu'elles vont être surprises en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette recette ?» Ou alors « Ah bon, c'est ma recette ?» Parce que quelquefois, évidemment, le visuel est très très différent de la recette qui a été réalisée et qui est plutôt traditionnelle dans tel ou tel pays.
D'ailleurs, ce sont des petits messages que vous laissez aussi à côté des recettes, enfin, dans les pages du livre. Merci beaucoup, Kabita, par exemple, d'avoir utilisé...
C'est venu après. Par exemple, au départ, quand on a commencé la maquette du livre, parce que on n'avait pas beaucoup de temps pour faire ce livre. On a mis moins de 8 mois, ce qui est quand même un miracle avec tout le travail que ça a représenté. Au départ, on n'avait pas du tout prévu dans la maquette ces petites discussions entre justement ces différentes femmes et moi-même. Et en fait, ça s'est imposé au fur et à mesure des découvertes des vidéos. Et là, je me suis dit, non, mais je communique vraiment avec elles. Il faut absolument que je puisse leur dire le message. Et quand j'écris à Kabita, je te remercie pour le petit truc que tu m'as appris avec ce citron réduit qui devient le tchouk et qu'on va déposer sur ces pommes de terre avec du piment et des épices et ça devient quelque chose d'explosif en bouche. C'est absolument génial et je l'utilise aujourd'hui dans ma cuisine pour d'autres choses. J'avais absolument besoin de lui écrire, de lui dire.
De lui dire, vraiment. Je vous propose de l'écouter un petit peu, Kabita.
Namaste, mon nom Kabita Tharu, Népal me bastu, a dhikri banai, sikhai jaitu. ई ढिकरी बना के लग पानी ढिका के परत ई पीठा हो ऐसे के चाने के परत ई पानी हो ऐसे के डार के सान खाए.
Alors, je n'ai pas eu la traduction non plus, mais on comprend. Ali Namasté, donc bonjour, je m'appelle Kabita.
Et bien là, par exemple, je mélange la farine et je vais faire des sortes de petits boudins que je vais cuire à la vapeur. Et ce seront les petits pains qui vont servir à déguster le plat. En plus, le plat qu'elle utilise, un très joli plat conique. Enfin, pas
c'est
un plat,
ça,
mais une sorte de chapeau conique.
Une marmite avec un chapeau en panier
joli,
tressé, qui est renversé, par lequel passe la vapeur. Et sur lequel on met un autre chapeau.
C'est...
Et alors, ce qui est assez fou, et je pense que dans plusieurs vidéos, j'ai eu la chance d'en voir 6, la manière dont elle est apprêtée.
Elle est tellement jolie. Alors, je ne sais pas si elle s'habille tous les jours comme ça, mais ça m'étonnerait. Mais là, elle avait sorti ses plus beaux atours. Elle a des bijoux, elle a une très jolie robe. Elle est extrêmement souriante. On la sent intimidée, mais en même temps assez fière. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que c'était important de regarder plusieurs fois les vidéos, parce que quelquefois on est capté par le regard, après eh bien on va regarder les détails. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que j'ai reproduit dans le livre, parce que j'ai trouvé ça extrêmement joli. Elle a fabriqué des tout petits contenants avec des feuilles pour mettre les épices, pour bien montrer les épices différentes. Je ne sais pas si elle avait assez de coupelles ou pas, mais en tout cas, elle a utilisé des petites feuilles. Eh bien moi, je me suis dit, voilà, pour le livre, je vais faire la même chose, parce qu'elle a pris du temps pour présenter ces petites épices. Évidemment que je n'étais pas obligée de le faire pour faire sa recette. Mais j'ai trouvé ça tellement joli, je me suis dit, ben voilà, ça c'est ma façon de lui répondre et de lui dire, quelle jolie chose tu m'as montré, donc je vais le faire un petit peu à ta façon.
En fait, ce sont des petits pains vapeur, vous dites.
Oui, ce sont des petits pains vapeur qu'elle partage avec sa famille, donc il y a tous les membres de sa famille qui arrivent, et donc on les voit déguster ces petits pains tout chauds, qui sont légèrement, on va dire, un petit peu moelleux, comme les bao chinois.
Oui, ou les agbo aussi,
oui.
Les agbo qu'on peut retrouver au Bénin.
Exactement, et là, eh bien, on la voit déguster les petites pommes de terre avec le fameux tchouk, une autre petite préparation avec des légumes. Tout est délicat dans cette vidéo. J'ai été extrêmement émue par la poésie de
oui,
ce moment.
Complètement. C'est comme un moment hors du temps, puisqu'on entend les oiseaux autour. Ce qui est aussi très intéressant dans votre livre, c'est qu'on sort complètement et effectivement, la différence et le handicap s'effacent intégralement.
Ah ben,
cependant, dans le livre, il est écrit que Kabita est handicapée de naissance, elle est en cours de rééducation, elle aimerait bien créer son entreprise.
On le voit très peu, en fait. Moi, j'ai oublié. Je la vois un tout petit peu avec sa canne à un moment, au début. Mais vraiment, on oublie. Mais sur de nombreuses vidéos, je crois que c'est Marie en Afghanistan. J'ai pas vu au départ qu'elle avait un problème au visage. Elle a été, suite à un accident, elle est très complexée par
une
partie de son visage qui est balafrée. Mais en fait, tout était tellement joli dans ce décor que je n'ai pas, mon regard ne s'est pas arrêté sur son handicap, en fait. J'ai trouvé que c'était génial qu'elle cuisine pour toutes ses copines, qu'elle réunit dans son atelier de confection à Kaboul. Enfin, il y a quelque chose de totalement fou. Elle fait de la cuisine au milieu de toutes ses étoffes. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Et tellement léger par rapport à... tout à son handicap, à l'actualité si compliquée. Et donc, on la voit, elle fait ses courses, etc. Et je n'ai pas vu, pendant un long moment, je n'ai pas vu
c'est
son handicap.
C'est quoi ? Je ne l'ai pas vu non plus.
C'est fou, hein ? C'est comme quoi, en fait, le handicap, c'est aussi une question de perception, en fait. On peut vraiment ne pas fixer son regard sur les choses. Ce qui était le plus important, là, c'est « j'ai quelque chose à vous raconter ».
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous parlons aujourd'hui de cuisine et de handicap. Cuisine comme source d'insertion professionnelle, sociale, insertion vitale, j'ai envie de dire.
Essentielle.
Avec Sonia Esguillon, cuisinière, son livre écrit pour et avec Handicap International pour les 40 ans de cette organisation non gouvernementale. C'est une pépite. On parlait de Marie en Afghanistan juste avant d'écouter Philippe Rameau, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi Les Indes Galantes ?
Alors déjà parce que...
C'est beau.
D'abord, c'est magnifique. C'est encore une histoire de langage universel par la musique, la danse, le chant. Le hasard, cet été, quand je terminais les textes pour le livre, j'ai eu l'occasion d'aller au cinéma pour revoir le film Les Indes Galantes qui raconte un spectacle incroyable qui a été monté avec des danseurs de rue, de crump, hip-hop et autres. Ce spectacle a été monté à l'Opéra Bastille. Et j'ai trouvé que d'arriver à faire se rencontrer deux mondes qui paraissent tellement éloignés et en même temps avec autant d'évidence, c'était un petit peu ce qu'on vivait. Alors le film, j'avais découvert un court-métrage aux rencontres photographiques d'Arles il y a 2 ans. Et là, l'émotion est revenue. Bon, autant vous dire que je suis sortie du film en larmes, mais avec tellement d'émotion, une force, une puissance. Et avec cette évidence de dire, mais oui, il faut se battre pour justement montrer toutes les passerelles qu'on ne voit jamais. On ne voit que ce qui sépare, ce qui différencie les gens, mais regardons ce qui les rapproche. Il y a tellement de passerelles évidentes à travers le beau, c'est-à-dire tout, la cuisine, la musique, la danse, le chant, enfin tout un tas de choses. Donc voilà, réfléchissons. Réfléchissons autrement.
Bali salam dosto. Esma khanam Mori Amiri est. 55 sal astam. Imruz mikha az Kabul Afghanistan astam. امروز یک بر ماشک است که بر شما آموزش میدم. ما که امروز برنامه غذای بر تناشک تهیه میکنیم یک غذای محلی مشهور افغانستان است که ما برای میمانان خاص خود تهیه میکنیم.
Marie, donc, qui nous prépare les raviolis.
Oui, les hachaks. En fait, c'est top. C'est... J'ai vraiment, alors quelquefois quand on est en cuisine, moi j'aime beaucoup chercher, réfléchir à des nouvelles recettes. Je n'avais jamais pensé à cette idée d'une farce pour des ravioles aussi simple. Des cébettes ou des petits oignons frais qu'on va couper très finement, qu'on va faire à peine revenir à la poêle juste pour les ramollir un tout petit peu avec quelques gouttes d'huile d'olive. Quand on fait ces ravioles, il y a un côté, une saveur végétale qui emplit le palais. Quand on déguste ces ravioles, c'est magique. En plus, les ravioles sont servies avec un yaourt. Donc, en étant arménienne, j'avoue que le yaourt, ça me connaît. Et donc, j'ai adoré l'association. Et vraiment, ces ravioles, j'invite les gens à découvrir cette recette extrêmement simple. C'est vraiment surprenant, ce mélange et ce côté à la fois frais, puissant, et extrêmement gourmand, savoureux, voilà, réconfortant.
On sent bien aussi les personnalités s'exprimer. Ah oui. Parce que Marie, en l'occurrence, on la voit, elle apparaît très droite.
Oui, elle est fière.
Fière, habitée, elle est très investie, en fait, de la mission qui lui est donnée, et qu'elle fait avec plaisir. D'ailleurs, elle va au marché, on la voit cuisiner. Ensuite, c'est et sérieux, et en même temps, on ressent vraiment ce qu'elle donne. Et ça, à plusieurs reprises, en fait, très souvent.
Non, on découvre le caractère des gens. Là, on voit qu'elle est organisée. Quand elle découpe ses petites ravioles, elle prend un verre, elle va tailler la pâte en petits disques. Tout est bien droit. On ne va pas prendre n'importe comment, on ne gaspille pas. Mais on le sent même à sa voix. Elle est un petit peu commandante, gentille, mais un petit peu commandante aussi. Donc c'est assez drôle parce qu'on s'imagine un peu les caractères des gens à travers justement les indications dans la recette.
Dans votre questionnaire, vous aviez donné des indications aussi sur l'endroit. Est-ce que ça devait être dans la cuisine ou il fallait commencer par la présentation? Comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il y avait un modus operandi?
Je me suis demandé, avant de commencer le livre, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que les gens cuisinent toujours dans une cuisine? Parce que ce n'est pas obligatoire. Est-ce que, par exemple, on cuisine dans un réfectoire? Parce qu'il peut y avoir plein de gens à nourrir. Est-ce qu'on cuisine en plein air? Est-ce qu'on cuisine sur son lieu de travail? Ce qui était le cas, par exemple,
Marie,
et aussi d'Azema, je crois, qui cuisine aussi sur son lieu de travail. En l'occurrence, ce sont des ateliers de confection ou quand elles ont des réunions entre femmes pour parler de l'association et puis de différentes personnes qui montent leur commerce. Et en fait, ça change considérablement les choses parce que ce n'est pas du tout la même chose si vous cuisinez chez vous, dans votre petit univers avec quelques ustensiles ou en plein air ou dans un réfectoire. Parce que, par exemple, quand on cuisine à plusieurs, eh bien, ça apporte quelque chose à la recette. Et ça, c'était important que je le comprenne, en fait. Comme le marché, c'était important de savoir si on allait tout seul faire le marché ou si, par exemple, comme en Sierra Leone, le mafoulaï est accompagné par son enfant. Et son grand garçon va l'aider à prendre les légumes, sur quelques petits gestes de cuisine. Et ça apporte aussi de la force à l'histoire et à la recette.
Ce qui est particulièrement touchant dans cette vidéo, j'ai trouvé, on la suit vraiment pas à pas. Elle dure une vingtaine de minutes, donc on va vraiment marcher avec elle. On découvre sa famille d'abord, son fils, son mari, les différents membres. Ensuite, on part au marché, on négocie avec elle, parce que là, on l'a entendu dire en anglais combien ça coûte. Ok, d'accord, donne-moi 2000. Et ce qui est très intéressant, c'est de découvrir aussi comment la cuisine est faite, sur quel type d'ustensile, dans quel type de marmite, et ce que ça va apporter peut-être aussi à la recette.
Et puis la quantité, parce que et puis celle qui est vraiment commune à de nombreux plats dans ce livre, c'est que la plupart du temps, c'était des quantités pour entre 8 et 12 personnes. Parce qu'au début, je me suis dit, mais il doit y avoir une erreur dans la traduction. Quand j'ai reçu certaines recettes, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Alexandre Bellaola,
genre 9
chef.
Oignons, 3 kilos de... Alors je me disais, non, mais là, il y a un problème.
Le camerounais Alexandre Bellaola nous a dit, il y a bien qu'en Europe, qu'on fait à manger pour soi tout seul ou pour deux. Sinon, c'est forcément pas 8.
Et c'est vrai que c'est surprenant au départ. Mais en même temps, je trouve ça incroyable parce que ça ne cuit pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les gros chaudrons, des marmites. Et c'est vrai qu'on s'imagine le temps qu'il faut pour faire le feu, mettre les choses, puis on a du temps. En fait, on attend, on voit bien que les gens attendent autour. Et puis quand c'est prêt, c'est prêt. On n'a pas du tout la même notion du temps. Et ça, c'est assez incroyable aussi.
Bon, il y a une frustration quand même, parce qu'on aimerait bien, quand on voit cette marmite avec ces gombos qui sont en train de mijoter, on a envie de goûter quand même.
Ah oui, ça, c'était la grande frustration du livre, c'est que j'ai pas exactement les goûts. Évidemment, je me suis imaginé des goûts, mais je ne les ai pas. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire quelques voyages et que je pourrai découvrir vraiment le goût de différents plats. Certains plats, j'aimerais vraiment les découvrir, parce que je les ai vraiment cuisinés à ma façon. Mais ça me ferait plaisir de les découvrir pour de vrai dans tel ou tel endroit du monde.
Ça vous a posé des équations et des problèmes aussi, notamment avec, en Sierra Leone toujours, il y a une petite pâte qu'on aperçoit fermentée. Mais alors, qu'est-ce que c'est?
C'est la pâte de sésame fermentée. Alors, impossible de la voir
ici.
Ou alors, il aurait fallu que je trouve quelqu'un qui voyage. Enfin, c'était compliqué. Et puis après, dans l'idée de pouvoir transmettre des recettes, le postulat, c'était de pouvoir refaire un petit peu ces recettes. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de donner les goûts, même si je n'ai pas cette boule de sésame, mais je vais essayer de donner les goûts avec de l'huile de sésame. Quelquefois, j'ai ajouté aussi un petit peu d'anchois, parce que le tout mélangé et cuit fait qu'on arrive à trouver ce goût un peu fermenté, peut-être. Donc, l'idée, c'était de faire ces petites associations pour essayer d'imaginer retrouver un goût que je n'ai jamais goûté. Et puis la cuisine, c'est ça aussi, parce que quand on invente une recette, c'est parce que d'une certaine façon, on a rêvé, imaginé quelque chose. Donc pourquoi pas à partir d'une histoire. Moi, j'aime bien ces recettes aussi qui se transmettent de personne en personne. Et à chaque fois, une personne amène son petit grain de sel et change un petit peu la recette. Et peut-être que vous, quand vous allez refaire une recette, vous allez changer un des ingrédients et aménager quelque chose. Et cette recette vit encore et encore. Et ça, c'est une force, c'est un petit miracle de vie, d'humanité, parce qu'on reproduit cette recette à l'infini.
Est-ce que vous aviez donné des consignes quant à la dureté de la recette, ou est-ce que vous aviez demandé plutôt des recettes faciles?
Non, j'ai demandé à ce que ce soit juste des recettes du quotidien. Soit une recette un peu de fête, genre qu'on mange, je ne sais pas, à une occasion particulière, mais pas non plus quelque chose de trop compliqué, mais plutôt dans le quotidien. Alors je me suis aperçue très vite qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment d'entrée et pas vraiment de dessert. Et on a fait effectivement par type de produit. On a fait un chapitre légumineuses, céréales et légumes. Et puis on a fait un chapitre viande, un autre chapitre poisson. Et le chapitre dessert est très très pauvre parce qu'il n'y a pratiquement pas de dessert en fait.
Je pense à votre chapitre sur les légumineuses. Là on découvre, alors on va dans un autre camp. On est au Kenya, dans le camp de Dadaab, oui, où on rencontre cette femme incroyable qui s'appelle Keiro Hassan Yaro, qui a plusieurs enfants, dont deux sont handicapés et malades. Elle nous mijote quelque chose qui est... Et en même temps, c'est simple, et en même temps, ça a l'air gourmand, et en même temps, on l'écoute très sagement quand elle cuisine.
En plus, ça se transpose. Alors, c'est une sorte de crêpe un petit peu épaisse qu'on va déguster avec un mijoté de chevreau. Et donc, j'ai essayé de reproduire une recette d'après les quelques indications. Et puis, il se trouve que j'avais un petit peu de reste pour refaire la fameuse crêpe. Et j'ai dégusté ça avec une blanquette et ça marche formidablement bien. Et je me suis dit, mais en fait, avec plein de mijotés, ça marche terrible. Plutôt que de proposer des pommes de terre ou autre chose avec la blanquette ou le bœuf bourguignon, mais essayons cette crêpe magnifique. Et en fait...
Kevin Gera, en fait.
Oui, exactement. Et franchement, c'est étonnant. Ça transforme complètement un plat classique de notre répertoire gastronomique. Et c'est extrêmement savoureux.
Quelle ouverture en permanence.
Il y a des choses que j'ai gardées. Ça, c'est vrai que, par exemple, pour épaissir une sauce, pour donner du corps, on peut soit la laisser réduire, soit mettre un petit peu de maïzena. J'ai découvert dans une des recettes, on utilise de la poudre de cacahuètes. C'est top. En fait, on va prendre des cacahuètes, on va les mixer très finement et on va les ajouter dans une sauce, on va laisser cuire.
C'est le curry
de courge, je crois,
du Mozambique. Donc, du Mozambique, voilà, dont on a entendu Jennifer tout à l'heure.
Et là, c'est génial, parce que cette poudre de cacahuète, non seulement elle va faire cette liaison de la sauce, mais en plus, elle va donner un petit goût donc de cacahuète un peu torréfié. Oh, c'est à tomber. Ça, j'ai gardé, parce que ça, c'est une super idée.
On garde, on note.
On note.
On note.
Le goût du monde. Clémence Denavy.
Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar.
Et bien sûr, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Sonia Esgulian. Nous écoutions Gilberto Gil, Ténécède. Ça vous plaît?
Ah oui, beaucoup.
Hein, Sonia? Et si on allait faire un saut à Dakar?
Oui. Hein? Avec Gamou.
Avec Gamou.
Salam alaikum. Nain tout de Gamou Taï. De Kaan Beller, Katiawalabi, département de Dakar. Ma ñewon tay pour di len togal yaasa jeun boy togg yaasa jeun di nga soxla diwlin jeun pour férer bi ciep pour ñankatang bi kari laurier kani poba xorom maji ak tomate may sa suma jeun.
Le yassa de poisson, donc de Gamou, on est au Sénégal.
Oh là là. Je n'ai que ça à dire. Ouh là là.
Cette recette, elle est, toutes les étapes sont données. La couleur est super belle. Enfin, tout est...
Ah ben là, c'est une explosion. Alors là, ce qu'il faut apprendre, c'est, on parlait tout à l'heure d'ustensiles et le geste, c'est piler au lieu de hacher. Parce que quand on va piler ensemble des piments, du citron vert, un peu de gros sel, différentes herbes aromatiques, des oignons, et qu'on va faire ensuite macérer son poisson avant de le faire griller, oh, on redécouvre la marinade. On connaît évidemment avec d'autres recettes, mais on a l'impression d'être devant une page blanche et de réapprendre tellement de choses. Donc là, je dois dire qu'au niveau des gestes, il y a pas mal de gestes que j'ai effectivement soit appris, soit réappris, en me disant « mais oui, pourquoi j'oublie par exemple de torréfier les épices à sec à chaque fois que je vais les utiliser ?»
Ça fait vraiment une différence.
Ah non, mais vraiment. C'est, on prend une poêle, on met son poivre, ses graines de cumin, évidemment toutes les épices entières, poivre, graines de cumin, ce qu'on veut, coriandre et autres, on les fait légèrement torréfier et ensuite, on prend un petit pilon et on tape. D'abord, ça fait du bien parce que la cuisine, ça permet de se défouler aussi. D'un coup, on en prend plein les narines. Donc là, on voyage, on laisse son esprit vagabonder et on cuisine. Et là, on va avoir un mélange, mais formidable.
Il faut quand même un matériel ou... Oui, un peu obligé.
Alors honnêtement, un pilon, on trouve. Hein. Après,
est-ce
si on n'a pas de pilon...
Est-ce qu'on peut prendre un rouleau de pâtisserie?
On fait exactement comme Jennifer au Mozambique. On prend le gros rouleau à pâtisserie, on prend un saladier et on tape. Et on va faire des moutures plus ou moins fines. On va obtenir les mélanges d'épices. Et on prend quelques secondes pour les faire torréfier à sec dans une poêle. Franchement, ça change tout.
En introduction du livre « La cuisine en partage », il y a le chef cuisinier Olivier Rollinger.
Oui.
Pas du tout innocent, puisque lui aussi, il a été blessé, il a échappé à une tentative de meurtre et cela a changé totalement le cours de sa vie, puisqu'il ne se destinait pas du tout à la cuisine. Des blessés de la vie au handicap international. On est vraiment dans un même esprit.
On est dans un même esprit. En fait, je ne dis pas que ça aide un peu plus à comprendre, mais sauf qu'on se met dans une position, on a le temps de la réflexion, de la méditation, de l'analyse, et de se dire qu'est-ce qui est important. Parce que je pense qu'on trie après les urgences, les choses indispensables de la vie. Et c'est vrai que je pense qu'après, ce qui surpasse tout, c'est l'humanité. D'ailleurs, Olivier Rollinger le dit, le plus important, au final, c'est l'humain. Et c'est, je pense, le message du livre.
Il y a aussi le cuisinier Grégory Cuilleron qui lui-même est handicapé. Rappelons juste que Handicap International a été créé il y a 40 ans, donc on était en 1982. Il y avait trois hommes qui étaient au Cambodge, dont un médecin. Mmh. Et ils ont été juste débordés par le nombre de blessés, de personnes qu'il fallait amputer parce que blessés par les mines antipersonnelles. Donc c'était ça les débuts. Et au début, ils ont donné quoi ? Eh bien des béquilles fabriquées avec ce qu'il y avait sur place, à savoir des béquilles en bambou. Donc en 40 ans, on a maintenant une action qui se déroule dans 60 pays. C'est juste énorme. Nous sommes en ligne avec Xavier Ducresse de Villeneuve. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le directeur France de Handicap International. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'action d'Handicap International dans le monde?
Handicap International est une organisation qui, depuis 40 ans, œuvre dans plus de 59 pays, du Yémen au Laos en passant par le Togo, l'Irak, la Colombie ou l'Inde, etc. Nous avons aujourd'hui plus de 4 millions de personnes que l'on accompagne dans le monde et nous avons 4700 collaborateurs qui interviennent. Alors, pour faire quoi ? Pour venir en aide aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou de handicap suite à des catastrophes naturelles ou des conflits armés, c'est-à-dire en crise humanitaire. Et là, nous, on est urgentistes et on intervient extrêmement rapidement, puisqu'en 72 heures, on peut acheminer ce qu'il faut pour les mettre en sécurité, leur donner les besoins de base, etc. Mais au fond, la véritable issue, c'est redonner à toutes ces personnes leur dignité pour qu'elles puissent agir et vivre avec une espérance de devenir comme tout citoyen dans le monde.
Parmi les programmes que vous avez mis en place, il y a notamment des programmes visant à l'éducation des jeunes filles et également des programmes de cuisine. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de s'occuper des populations vulnérables et des personnes handicapées et on cherche à chaque fois des leviers d'inclusion. La cuisine notamment est un moment très important de la vie des familles parce que c'est un moment fort, c'est un moment inspirant et c'est un moment de retrouvailles et d'éducation. Éducation forcément à la santé, éducation forcément au lien social. C'est vrai qu'on arrive aussi à aider des femmes notamment à créer leur propre entreprise et parfois aussi à créer leur restaurant. Et elles cuisinent comme ça pour une communauté, une population, un village. Et elles peuvent ainsi à la fois jouer le rôle de lien social et à la fois se réinsérer. Vous savez, le but ultime de notre action sociale, c'est faire en sorte que les personnes vulnérables et en situation de handicap puissent se remettre debout. Se remettre debout, c'est à la fois physiquement, parce que là on intervient sur de la réadaptation avec des prothèses, des orthèses, des béquilles ou des fauteuils roulants, mais c'est aussi une reconstruction souvent psychique ou psychologique. In fine, c'est aider toutes ces personnes à retrouver leur dignité.
Il y a eu une très belle victoire en 40 ans pour Handicap International. Je pense à vos plaidoyers contre les mines antipersonnelles. Quelles sont les principales causes que vous soutenez ?
Depuis 6 ans, on se bat pour faire cesser le bombardement des civils, le fait que les traités internationaux et les conventions de Genève soient bafoués. Première guerre mondiale, 15% des victimes étaient des civils. Deuxième guerre mondiale, 50% des civils étaient des victimes. Aujourd'hui, c'est 90% des victimes qui sont des civils. Parce que certes, les traités existent, mais au fond, nous faisons face à des armements de plus en plus puissants à très large spectre. Deuxième chose, les combats sont maintenant situés plutôt dans les centres-villes. Et ça, c'était pas prévu dans les traités, cette évolution. Donc on veut faire signer une déclaration politique, il y a aujourd'hui plus de 110 États qui nous suivent, pour faire respecter le droit international humanitaire à l'aune de ces évolutions. Et donc avoir un texte plus coercitif, plus fort, que les États s'engagent à respecter le droit international humanitaire et les conventions de Genève.
Qu'est-ce qu'attend Handicap International, justement, d'un livre comme celui-ci ?
Alors la première chose que l'on attendait, c'est la rencontre extraordinaire entre notre chère Sonia et le terrain. Et à travers ces rencontres qui se sont faites par vidéo, la première chose qu'on a voulu faire, c'est ce cadeau de recette. Et cette première victoire, c'est de faire en sorte que tout le monde sache que toutes ces personnes-là, dans la plus grande pauvreté, la grande précarité que nous aidons à se remettre debout, elles ont quelque chose à nous apprendre. Et ça, c'est pour nous une première leçon d'humanité qu'on voudrait partager avec tout le monde.
Merci beaucoup Xavier Ducrest de Villeneuve. Sonia, quand vous avez été handicapée, parce qu'on a tous été handicapés à un moment, qu'on ne peut plus bouger, qu'on se sent complètement dépendant des autres, qu'est-ce que cela a suscité en vous ?
Ça a été extrêmement dur. Je suis passée par toutes les phases. Ça a été terrible parce que je crois être quelqu'un de très indépendant. Déjà, j'ai eu une période alité, puis fauteuil roulant, puis béquille. En plus, je n'étais pas du tout douée. Alors, les béquilles, ça a été très, très dur pour arriver à marcher. Et là, je me suis rendu compte de l'importance de compter sur les autres, de l'échange et puis aussi d'accepter l'aide. Parce que c'est très difficile d'accepter l'aide. Moi, je me suis sentie des fois un peu humiliée pour plein de situations, s'habiller, se laver. Enfin, franchement, jamais j'aurais imaginé être dans cet état pour ne pas pouvoir faire certains gestes du quotidien. Et puis après, on s'aperçoit que tout va mieux si on accepte, un, son état, et deux, d'être aidé. Parce qu'à un moment, on pourra aussi déjà progresser et peut-être à son tour faire quelque chose. Et bon, il a fallu quelques semaines, parce que j'avoue que ça n'a pas été simple au début. Mais ensuite, j'ai vraiment complètement inversé la situation. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup mieux et dans mon corps et dans ma tête.
Est-ce que ça a été du coup, paradoxalement, source d'inspiration? Vous voyez les enfants quand ils se font mal, ou quand ils sont justement immobilisés également, ça dure une journée. La deuxième journée, ils savent déjà comment jouer et comment s'organiser pour ne pas avoir besoin du bras qui leur manque, en tout cas pendant qu'ils sont blessés.
Moi, je pensais qu'on ne pouvait pas cuisiner assise. Je me suis rendu compte qu'on pouvait cuisiner assise parce que j'avais toujours cuisiné debout, avec une certaine position. Et en fait, on découvre plein de choses. J'ai aussi eu la chance extraordinaire d'avoir mon mari Emmanuel à mes côtés,
qui est l'auteur des photos,
qui est l'auteur des photos et qui pendant quelques semaines a pris le relais en cuisine et il a été vraiment extrêmement merveilleux. On découvre des astuces, donc on fait une autre cuisine, mais c'est une cuisine qui est celle du moment. Donc c'est une cuisine qui nous ressemble puisqu'elle est la nôtre sur un temps donné.
Et nous retrouvons à Bogota Johanna Huertas, elle est coordinatrice chez Handicap International. Elle est en charge de la lutte contre les violences armées, sensibilise la population au déminage et elle assiste les victimes de mines antipersonnelles. Elle a partagé une recette.
La cuisine s'invite dans toutes nos activités sur le terrain. Pendant nos ateliers, tous les participants viennent avec quelques produits et ingrédients. On cuisine ensemble, c'est la marmite communautaire. Et ce sont les femmes qui dirigent. Elles sont mises en avant et responsables. Pour nous, c'est la garantie qu'elles participent aux ateliers, qu'elles se concentrent sur les discussions, par exemple sur la prévention contre les violences. Cela leur donne un rôle, une fonction. C'est important. En plus, elles peuvent rentrer chez elles après l'atelier avec un repas déjà prêt pour leur famille. Elles n'ont pas besoin de se dépêcher et ne sont pas distraites pendant nos ateliers par le travail qui les attend chez elles. Pour le livre, j'ai choisi une recette de soupe, l'haricot. C'est une soupe traditionnelle du centre de la Colombie. On la mange traditionnellement le dimanche, un jour de repos, et quand la famille est réunie. Tout le monde est assis autour de la table et participe à la préparation de l'haricot. Les ingrédients, des pommes de terre, du maïs, très important le maïs. Il représente la tradition indigène, ancestrale. Et puis, il y a l'oignon, le poulet effiloché. Nous ajoutons également un peu de crème, du lait pour donner à la soupe de la douceur et une certaine consistance qui la rend beaucoup plus attrayante et délicieuse.
Si c'est l'ajiaco, esta sopa pues es tradicional de esta región, de este lado del país.
Cette soupe signe la rencontre entre deux mondes, la période coloniale espagnole avec la tradition indigène ancestrale. C'est un mélange de toute l'histoire de mon pays dans un plat. Je la prépare avec mon fils, j'aime beaucoup cuisiner avec lui. Pendant que nous cuisinons, nous discutons d'un peu de tout, même de mon travail. J'ai toujours pensé qu'impliquer mon fils dans tout ce que je fais le rendait plus sensible aux questions sociales de mon pays.
Johanna Huertas, à Bogota. Merci beaucoup à Aspel Lopez de la rédaction latino-américaine de RFI qui l'a interviewée et traduite pour nous. Handicap International, on l'a entendu, qui a une action très large. Il y a aussi des cours de cuisine qu'a suivi le seul homme du livre,
oui, Xavier. Alors, c'est celui qui a fait le plat le plus roboratif du... Oui, c'est très rigolo, son plat.
Piquer macho. Alors là, pour ne pas se faire piquer son homme.
Ah oui, non, ça, c'est un plat de bûcheron, je dirais. C'est un plat très copieux qu'il fait pour son garçon. Il a un garçon adolescent qui a des déficiences mentales et donc il cuisine beaucoup pour faire plaisir à son garçon. C'est le plat préféré de son garçon et donc ce plat est constitué d'une viande rôtie, de saucisses, d'œufs durs, de différents légumes, plus des frites. Au début, quand je regardais faire, je me disais non mais ça va s'arrêter. À un moment, on dirait un film, presque un gag. On rajoute dans ce plat. Je me suis dit mais ça s'arrête quand ?
En plus, on trouve dans votre livre des saucisses laotiennes. On trouve plein de recettes.
Oui,
en
alors
fait.
Par exemple la saucisse laotienne, très dure à faire. On n'a pas forcément le matériel. Et on ne va pas embosser des saucisses. Eh bien, je me suis dit, on va prendre la farce des saucisses laotiennes, qui est absolument délicieuse, avec une montagne de citronnelle. Plutôt que de faire des saucisses, on va prendre cette farce et on la cuit comme une terrine. C'est absolument délicieux. On bénéficie du goût sans s'embêter à faire des saucisses.
Quelle est la recette que vous avez partagée ? J'imagine qu'il y en a une.
Ah bah toutes !
Mais il n'y en avait pas une recette de cœur.
Ah si, ben là, il y a une recette. D'abord, ça a été une révélation, parce que je ne la connaissais pas. Et alors là, c'est la recette que j'ai le plus reproduit. C'est la maklouba. En fait, c'est un plat palestinien et qui nous vient donc d'une personne qui était dans un camp en Syrie. Et quand j'ai découvert le plat, je n'ai pas tout de suite compris comment était constitué le plat. J'ai vu le résultat final, je me suis dit « Oh, mais quelle beauté !» Et donc, plusieurs fois, j'ai essayé de comprendre comment était construit ce plat. Et j'avoue que ça a été une révélation pour tout, pour le goût, pour la beauté du plat, pour l'émotion qu'à chaque fois, quand je repense à ce plat, je revois toutes les étapes. Je trouve que c'est un plat incroyable. En plus, on n'utilisait pas beaucoup le friquet, donc ce blé tendre, ce blé vert
oui.
Qui est grillé et qui a ce goût un peu de fumée. Oh, je vous invite vraiment à découvrir ce plat, c'est assez incroyable. En plus, le plaisir, quand j'ai fait pour la 2e ou 3e fois ce plat à Lyon, Ryoko Sekiguchi m'a fait le plaisir de venir partager notre table.
Qu'on connaît bien.
Et donc, je sais que vous la connaissez bien, que vous l'avez reçue. Et elle parlait donc de son livre sur Beyrouth, que j'aime énormément. Et elle m'a fait un très grand plaisir, parce qu'elle m'a dit que c'était une des meilleures maklouba qu'elle avait goûtées. Donc, elle n'est évidemment pas exactement comme la maklouba qu'on fait au Liban, parce que j'ai vu sur certaines photos qu'elle n'était pas construite de la même façon. Mais je pense que le goût est très proche.
On mettra une photo, évidemment, sur la page du Goût du Monde.
Ah oui.
Toutes ces vidéos, quelle richesse! Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces vidéos?
Avec Xavier Ducret, nous réfléchissons à les diffuser donc, tout au long de l'année 2022 sur le site de Handicap International et sur les réseaux sociaux. L'idée étant de partager les recettes et peut-être de créer des petits événements comme des ateliers de cuisine ou des découvertes de produits.
1 euro pour chaque livre vendu oui. Et reversé à Handicap International, qui a une action... à plusieurs étages.
C'est essentiel, c'est très important. On a vraiment besoin de tout le monde. Achetez ce livre. D'abord, c'est un beau cadeau. C'est un livre qu'on lit à différents niveaux. On peut vraiment être et dans la cuisine et dans une belle histoire.
Absolument. Merci.
Merci Clémence.
Non mais je vous remercie à double titre. Déjà parce que vous êtes venue nous parler de ce livre de manière exquise et surtout parce que vous nous avez associés à ce projet formidable.
Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et vous alors, quel regard portez-vous sur le handicap ? Quel est votre point de vue ? Racontez-nous. Est-ce que vous avez des recettes à partager également sur les réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission. Merci à vous évidemment de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure.